ça renvoie à mon deuxième point qui est très classique et standard dans les études d'usage, mais ça, toute l'histoire de la sociologie des techniques nous l'a dit et redit. Il faut insister sur ce point qui est que les technologies ne se substituent pas les unes aux autres, ou très très rarement. Ah, moi, je pense que le seul exemple qu'on connaisse aujourd'hui de substitution, bon, on peut dire le Minitel a disparu, puis il y a le fax. Hein. Mais sinon, c'est une loi générale hein, des fabrications de technologies, c'est qu'on ajoute une nouvelle technologie sur la suivante, et donc la nouvelle transforme l'usage de la précédente, mais il ne la fait pas disparaître. Hein. Et on a dans la tête constamment des modèles de vases communicants. Hein, Antonio Cassidy, il a une formule, j'oublie toujours, voilà. Hein, si on remplit un vase, on vide l'autre. Hein. Et donc, on a, je pense que c'est une représentation constante qu'on a, qu'il y a un univers fini. On n'est pas dans un monde extensif d'abondance. Et donc, si on est beaucoup sur Internet, ben on va être peu dans la vraie vie. On est à regarder du spectacle vivant sur Internet, ben on ne va plus aller dans les salles, etc. Donc, toutes ces logiques de vases communicants, on remplit quelque chose et on vide l'autre, en fait, se constatent quasiment jamais. Hein. Et donc là, il faut le redire. Alors, on pourrait le redire avec plein de chiffres. Hein, quand la radio est arrivée, on a pensé que ça allait tuer la presse. Quand la télévision est arrivée, on a pensé que ça allait tuer la radio. Quand Internet est arrivé, on a pensé que ça allait tuer la télévision. La télévision a encore pris, bon, ça se stabilise notamment chez les jeunes, hein, mais elle a encore pris 2 minutes de plus dans les 3h20 et quelques journalières. Donc on a un phénomène où quand la technologie arrive, on l'ajoute à la suivante, et je ne sais pas comment on fait, il y a une sorte d'élasticité du temps, et surtout l'élasticité est une compression temporelle sur le multitâche, mais on fait des choses différentes. Peut-être sur le multitâche aussi, c'est aussi un discours habituel, le multitâche c'est un mythe, hein, ça n'existe pas, on n'est pas multitâche. Hein. On fait plusieurs activités par des séquences dont on a raccourci la bascule temporelle d'un côté à un autre, mais on ne fait pas plusieurs choses en même temps, ça c'est les psychologues insistent beaucoup sur cet aspect. On peut avoir une tâche d'activité en face, puis une tâche en fond, mais en fait, ce qu'on fait de plus en plus rapidement, c'est ça. Hein. Mais c'est ça. Quand Kasparov fait des parties d'échecs simultanées, il ne fait pas 10 parties en même temps. Il fait une partie, mais il séquence très très vite chacune des parties. C'est ce qu'on fait quand on regarde la télé en clavier-temps, etc. etc. Sur cet effet de cumul, moi, il me semble, alors j'insiste là-dessus parce que je pense que ça concerne le monde du spectacle. Alors, je lance ça comme une provocation en espérant que ça suscite le débat après. Et je pense que l'idéologie officielle du monde du spectacle, enfin des arts, et d'ailleurs c'est très présent, dès qu'on va dans les écoles d'art, etc., qu'on discute, c'est ce texte que donc, vous devez connaître, ou vous devez connaître des gens qui le connaissent, qui est assez facile à lire, de Walter Benjamin, qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique ». Qui est un texte fameux que tout étudiant en école d'art voilà, a lu, dans lequel Benjamin, ça date de 1935 ou 1936, avec une sorte de nostalgie qui n'est pas complètement réactionnaire, hein, à la différence d'Adorno à l'époque, dit, et donc s'inquiète de l'arrivée du cinéma et de la photographie. Il s'inquiète tout en y adhérant. L'inquiétude centrale est de dire l'œuvre d'art, en tant qu'elle est unique, en tant qu'elle est une présence sensible, absolue et immédiate entre le regardeur et l'œuvre, en tant que l'œuvre d'art a une aura, c'est le grand terme que met en scène Benjamin, est menacée par une nouvelle forme de culture qui est la reproductibilité technique du cinéma et de la radio. Mais je pense que vous connaissez tous ce point benjaminien. On a en tête cette idée que il y a quelque chose d'une aura particulière qui est la présence à l'œuvre. Et évidemment, dans le monde du spectacle vivant, c'est absolument essentiel autour de la mythologie, une mythologie très nécessaire, moi auquel j'adhère complètement, du plateau hein, et de la présence en salle du public. Alors, c'est très vrai, enfin, je pense que l'argument est très fort, c'est pour ça qu'il a eu un tel succès. Le seul problème, c'est que quand on fait jouer l'argument des vases communicants sur Benjamin, ce qui n'est pas exactement dans le texte de Benjamin, hein, on imagine que la reproductibilité technique généralisée qu'Internet a manifestée fait qu'on a fait disparaître l'aura, le sens de la présence, etc. Et il n'y a rien de plus faux dans toutes les enquêtes d'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les musées. La musique partagée, piratée, distribuée, généralisée n'a en rien fait tomber les chiffres de fréquentation des concerts. Je pense qu'on peut dire, alors c'est peut-être la question moi que je vais lancer, que c'est pas parce qu'on va mettre des vidéos, films, reproductions, représentations de ce qui se joue ici sur cette scène sur Internet qu'on va vider la salle qui est ici. Enfin, je veux pas faire de pari prospectif, c'est pas du tout mon truc, mais on peut en être quasiment sûr. Hein. L'aura est toujours une attente absolue, et même d'ailleurs le mythe de l'authenticité de l'œuvre est toujours aussi absolu, hein, c'est-à-dire des reproductions parfaites, etc., ne sont pas des œuvres pour les tableaux. Ce fonctionnement est toujours là. Ça n'empêche en rien qu'on peut développer à côté une culture de la diffusion de l'œuvre reproduite techniquement à travers Internet, etc. Benjamin a raison si on accepte que les deux dynamiques ne se sont pas substituées l'une à l'autre, mais se cumulent, hein, et qu'aujourd'hui on écoute de la musique enregistrée et on va voir les artistes en concert, on regarde des œuvres sur Internet et on va dans les musées. Et je pense que pour spectacle vivant, c'est la même dynamique. Alors je dis ça de façon forte parce que dans la discussion, il y avait l'idée quand même que dans le monde du spectacle vivant, il y aurait une sorte de crainte, mais je crois qu'elle est très différente en fait en fonction
des lieux
et des artistes sur cette idée qu'on ne peut pas dévoiler ce qu'il y a sur le plateau. Ce qui d'ailleurs, par ailleurs, se justifie, enfin, me semble-t-il, enfin, peut très bien se justifier dans plein de démarches artistiques, parce qu'on risque de vider les salles. Je crois qu'on n'a quand même pas d'exemple, hein, de ce type-là. Les chiffres de Classic, mais que vous connaissez sans doute bien, hein, du ministère de la Culture, parce qu'en France, on a cette particularité qui est l'enquête sur les pratiques culturelles des Français tous les 6 ans, qui fait un peu la loi, qui déprime d'ailleurs tout le monde de la culture tous les ans, qui est incroyablement robuste, hein, c'est une magnifique enquête. Hein, c'est des chiffres, c'est quantitatif. Ça nous montre que, en fait, et ça c'est au cœur même des transformations, je crois, sociologiques là, de nos sociétés, que les inégalités ne diminuent pas. Dans l'accès à la culture, donc il y a toujours, et notamment à la culture dite cultivée, je ne rentre pas dans ce débat, mais qui est à Montfort, j'ai regardé les chiffres avant de venir là, plus de 51 ou 52% des Français ne vont jamais dans une salle de spectacle. Voilà. En revanche, il doit y en avoir 10% qui y vont 25 fois. Hein. Et donc la dynamique en fait, c'est que ceux qui sont engagés dans des pratiques culturelles ne cessent d'augmenter leurs pratiques. Hein. Et donc ce qui fait que les salles sont assez pleines, enfin même je crois qu'elles n'ont jamais été aussi pleines que si on regarde l'histoire en volume des publics, en tout cas pour les musées c'est sûr, pour les concerts aussi, etc. On n'a jamais eu autant de nombre de spectateurs, mais en revanche le public des spectateurs sont des cumulants, hein. Et la logique même, c'est pas nouveau, hein, Bourdieu racontait ça dans les années 60, mais ça ne cesse de s'augmenter, la logique même des pratiques culturelles, c'est celle du surcumul, hein, c'est-à-dire que ceux qui fréquentent beaucoup fréquentent encore plus, et du coup, ils squattent un peu, enfin je ne sais pas si je peux dire comme ça, ils squattent les salles, ce qui rend le défi de la démocratisation culturelle assez complexe, je crois, mais ça vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, qui est de comment réouvrir les équipements culturels à d'autres publics. Et est-ce que, c'était notre discussion, je me souviens, est-ce que il n'y a pas des expériences numériques aussi pour transporter le spectacle en dehors du lieu sacré, consacré de la présence et de l'aura, qui serait pas forcément le numérique, mais la diffusion dans d'autres lieux publics, mais des lieux moins habituels. Je me rappelle, tu parlais de café, voilà. On sait que l'opéra a réussi une très belle opération, enfin ça marche incroyablement bien avec leur histoire de... Hein. Donc la magie de la présence, etc., bon, elle est sans doute atténuée. Hein. Je ne cherche pas du tout à dire que les expériences sont équivalentes. Mais on a une autre expérience qu'on peut très bien faire en salle de la diffusion des opéras. Et je connais pas les chiffres, je ne sais pas si ça ouvre à de nouveaux publics, j'en suis pas entièrement convaincu, mais ça permet à des publics qui n'ont pas accès à ces lieux quand même très réservés que sont les opéras d'ouvrir des salles. Donc moi il me semble qu'il y a quelque chose là qui se joue d'important autour de la prise en compte de l'effet de cumul.